Petit disclaimer avant le début de cet épisode, on vous dit dans l'épisode en fait qu'on n'a pas lu la BD, le comics, mais en fait ça datait d'il y a quelques temps, on n'avait pas trouvé sur internet la BD, et en fait maintenant elle est disponible près partout sur Amazon. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à la retrouver sur Amazon ou sur d'autres sites. Bonne écoute. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque, enfant, où le matin vous vous leviez avant vos parents pour regarder la télévision? De cette cassette, oui on est vieux, ou de ce DVD que vous avez vu des centaines de fois le dimanche matin. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui dans le 112e épisode de Main Street Actu.
Welcome.
Monsieur, dame, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre qu'on vous dise de descendre.
This is Main Street, Main Street Station.
Et oui, on va vous parler aujourd'hui avec Olivier qui est là. Déjà, bonjour Olivier.
Bonjour Tony.
Alors Marie ne nous accompagne pas aujourd'hui parce qu'elle n'a pas pu se libérer et de toute façon, elle n'a pas l'air super intéressée par le sujet.
Non, c'est plus un sujet pour les garçons peut-être.
Ouais, voilà, et puis c'est un sujet que... Alors, c'est un truc, je vous explique vite fait. Je voulais parler de ça déjà du temps où j'avais ma chaîne YouTube. Donc, ça date un peu, voilà, c'était un truc qui me tenait à cœur, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler cette fois-ci. Alors, on a le droit d'en parler parce que c'est un film de Touchstone, donc c'est du Disney, voilà.
Voilà, et c'est sur Disney+, en plus.
Et en plus, il est sur Disney+. Et donc, aujourd'hui, on va parler de The Rocketeer, ou en français, Les Aventures de Rocketeer. Alors, je suis certain que... au moins 80% des gens qui nous écoutent ne connaissent pas ce film.
C'est sûr.
Moi,
il est culte, quand même.
Ouais, c'est un film culte, en fait. Et il a lancé pas mal d'acteurs. Enfin, il y a notamment une actrice qui est un de ses premiers films, qui est maintenant assez connue. Donc voilà, ce film-là, alors on va vous situer un petit peu le synopsis. Donc ça se passe en 1938, juste avant la Seconde Guerre mondiale, à Los Angeles. Et en fait, il y a un réacteur dorsal, un jetpack hein, typiquement, qui a été volé à Howard Hughes, qui était un magnat de l'aviation. Et en gros, ce jetpack se retrouve, enfin a été volé, il y a une course poursuite, etc. Et il y a un pilote d'avion d'acrobatie qui s'appelle Cliff Sicord, qui récupère ce jetpack. Et alors, il lui arrive plusieurs choses. Enfin, voilà, c'est un peu comme dans tous les films de cette époque où c'est un peu un film d'aventure. Et après, il y a un méchant. Et on va revenir un peu sur ça après.
Ouais. Mais très bien. Il y a plusieurs méchants, on peut dire.
Oui, il y a plusieurs méchants en plus, et dont enfin voilà, l'incroyable Timothy Dalton.
Qui surjoue un peu quand même dans celui-là, je trouve.
Léger, à peine. Surtout dans la scène où on le voit tourner un film dans le film là.
Ouais, mais j'adore cet acteur. Ouais.
Oh, il est incroyable, il est incroyable. Donc voilà un peu le synopsis du film. Alors rapidement, parce que on les a pas lus. En fait, c'est un film qui est tiré d'un comics. Qui est sorti en 1982. Le comic s'appelait The Rocketeer. Alors, il était sorti notamment chez Pacific Comics et Dark Horse, voilà les plus connus. C'était un comic qui n'était pas un comic. C'est une série intermittente, voilà. Ouais. Et alors, c'était une série un peu parodique et un peu sexy qui présentait donc ce héros, le Rocketeer. L'histoire du comic est à peu près équivalente à celle du film. Alors, j'ai pas lu les comics, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais c'était Dave Stevens d'ailleurs qui avait sorti les comics. J'aurais bien aimé le lire, mais malheureusement, voilà, je l'ai jamais trouvé.
Ça se trouve encore ça, tu crois?
Ben, je pense pas. À mon avis, ça a jamais dû être réédité, je pense. Mais d'ailleurs, si jamais un jour quelqu'un le trouve ou a un scan de ce comics, n'hésitez pas, je suis preneur, quelle que soit la langue. ça m'intéresserait bien de le lire.
Ouais, et alors, il y a eu. Pour voir si c'est le même ton que le film d'ailleurs. Parce que
c'est un peu le même ton. Ils ont un peu, de ce que j'ai compris, le film est un peu plus sérieux que le comics. Apparemment. Et déjà, le film est pas super sérieux.
Non, c'est clair, c'est ça qui est bien.
Mais le comics est un peu plus parodique apparemment.
D'accord.
De ce que j'ai pu lire à gauche à droite. Donc voilà. Et alors, il y a eu deux cycles en fait des aventures. Donc il y avait donc le premier Rocketeer, et ensuite il y a eu un deuxième cycle, les aventures de Cliff à New York. qui est sorti dans le Rocket Tire Adventure Magazine à partir de 1988, excellente année d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà un peu ce qui s'est passé là-dessus. Donc voilà. Donc c'est un film qui est sorti en 1991-1991.
Ouais.
J'avais 3 ans quand il est sorti. Et j'ai l'impression d'avoir connu ce film toute ma vie, ce qui est le cas, hein, quasiment littéralement. quand je parlais du fait que se lever le matin avant les parents le dimanche pour regarder la cassette, j'ai fait ça pendant des années et j'ai vu ce film un nombre incalculable de fois. Je pense que je l'ai au moins vu autant que la première trilogie Star Wars.
Ah ouais, quand même.
Voilà. Ah ouais, impressionnant. J'ai adoré ce... Ouais, c'était vraiment un film que j'ai regardé énormément. Après, j'ai continué à regarder Star Wars après, mais celui-là, j'ai un peu moins vu. Mais j'ai regardé il y a pas si longtemps et il passe toujours magnifiquement bien, je trouve.
Oui, c'est une belle surprise parce que du coup, moi, je l'avais vu il y a longtemps, je sais plus à quelle occasion, parce que comme je l'ai revu hier, j'ai reconnu des scènes que j'avais déjà vues. Et à la limite, je l'ai vraiment apprécié et j'étais très agréablement surpris. Il a pas vieilli tant que ça. Bon, un petit peu, mais il y a des films qui vieillissent beaucoup plus que celui-ci. Et puis, c'est tout à fait ce que j'aime, c'est l'aventure, l'action à la Indiana Jones, à la Goonies, enfin tout ce qu'on avait dans les années 80-90.
Ouais, c'est ça, et je pense que c'est ça qui fait qu'il passe encore si bien maintenant, c'est que c'était vraiment ces films d'aventure.
Des méchants
d'aventure.
Iconiques, des comment dire, des molosses, il fait peur
le tard.
Oui, voilà.
Il me fait penser à requin dans les James Bond, tu vois, c'est le même genre. Hein.
C'est inspiré, hein, c'est
oh, oui, clairement.
Il y a un côté James Bond aussi, un peu.
Un peu. Bah, surtout avec le FBI qui mène son enquête, etc. On va passer rapidement.
De James Bond, il y a un James Bond.
Notamment, il y a un James Bond qui joue dedans, Timothy Dalton. Bon, on va commencer par lui, tiens. Timothy Dalton qui joue Neville Sinclair, qui est le méchant du film. Alors. C'est extrêmement stéréotypé, mais c'est un méchant nazi.
Ça fait très Indiana Jones pour ça aussi.
Voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment.
C'était l'époque où c'était les méchants ultimes.
Ah ouais, c'est ça. C'était donc pour situer un petit peu en fait. Donc c'est un méchant qui est un acteur à Hollywood, mais qui en fait travaille pour le Troisième Reich, qui est en train de monter, et il essaye de voler des armes nouvelle génération aux États-Unis, dont le fameux jetpack. Donc voilà un peu le comment il est et c'est il est très parodique hein. faut être honnête et comme tu disais il surjoue un peu dans
oui parce dans qu'en fait c'est je pense qu'on lui demandait de faire ça parce que c'est un excellent acteur mais dans celui-ci il fait le méchant vraiment méchant et
oui c'est ça
c'en est presque drôle
mais je pense que c'est un peu de manière générale c'est le ton du film hein, qui est comme ça un peu comme le comics
Je pense que ça se moque aussi enfin ça rappelle les vieux films tu sais des années 40-50 où t'avais un méchant qui était toujours extrême qui était surjoué en fait un peu méchant d'époque c'était ça quoi.
Ouais, je pense que c'est ça qui joue, qui est fait comme ça. Et bon, vu le ton du film et connaissant un peu ayant lu un peu le ton du comics, je crois que c'est aussi vraiment un truc qui a été fait pour se moquer un peu de ce genre de film. Et au final, c'est ce qui passe bien, quoi. Quand tu vois le café où travaille Jenny, voilà. C'est clairement.
Le café en forme de chien.
En forme de chien, là, ouais.
Ouais, ouais. Bah, justement, c'est en fait, quand j'ai revu la scène, ils sont dans le grenier, tu vois. Il y a un plan où on voit la caméra qui va dans le grenier. Donc on voit l'extérieur du bâtiment qui a une tête de chien et on passe par l'œil de tête de chien. C'est tout à fait les genres d'images iconiques, tu vois, que tu avais dans les vieux films qui marquent l'enfance, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment. Il y a vraiment des choses iconiques comme les méchants, les scènes un peu terrifiantes de meurtre, ce qu'il y en a. Bon, c'est pas
effectivement
pas de violence graphique, mais c'est des meurtres un peu sordides qui marquent quoi. Donc
c'est ça. Il y a déjà la scène où ils vandalisent la maison, que bon, enfin.
Oui, c'est un peu.
Enfin voilà,
peu,
c'est vraiment ils viennent vraiment visiter la maison et la vandaliser. Puis ouais, la scène dans l'hôpital aussi.
On dirait que c'est coupé même d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Oui, je serais curieux de voir s'il y a une version.
Mon avis,
c'est une version longue de ça. Ça doit être un peu plus. Ouais, je pense.
Ouais, j'ai l'impression que la scène est coupée.
Mais donc voilà un peu. Enfin, Voilà, c'est un peu ça le qui est intéressant dans le film, en fait, je trouve, c'est que c'est vraiment il y a un peu de tout, en fait. Il y a vraiment, c'est un film d'aventure, mais c'est un film avec des nazis, donc ça va un peu emprunter à Indiana Jones. Puis d'un autre côté, emprunter un peu à d'autres films un peu d'espionnage, James Bond, etc.
Ouais, parce tout que, à fait.
Il s'infiltre à gauche, à droite, etc.
Film de super-héros aussi, hein.
Film de super-héros, mais c'est
il y a tout dans ce film.
Le comic, c'est dans la catégorie super-héros.
Bah oui, il était
catégorisé comme ça, oui. Et puis quand on le voit, c'est clairement ça, quoi. Et puis le fait qu'il a un masque, enfin un casque. Alors dans le film, c'est bien fait parce qu'ils expliquent que c'est pour réussir à se diriger, parce qu'il n'arrive pas à contrôler le jetpack. Et en fait, du coup, il est une espèce de. Alors vous irez voir quelques images, mais il est une espèce de crête sur le casque, en fait. Et en gros, c'est juste le fait qu'il tourne sa tête à gauche ou à droite qui va le faire tourner, en fait, quand il est avec le jetpack. Bon. Voilà.
C'est un peu tiré par les
lois de la physique ne s'appliquent pas forcément à ce film, hein, faut le reconnaître. Mais en vrai, ça passe bien, quoi.
Ouais,
c'est le genre de film.
Franchement, si on donne pas envie aux gens, là, on leur parle d'un film de science-fiction, de super-héros, de James Bond,
c'est ça.
De Diana Jones, tout ça mélangé. Franchement, ça fait envie. Hein.
Oui, parce que faut vraiment aller voir ce film. Parce que, bon, il est sur Disney Plus, hein, donc là, je suppose que la plupart des gens l'ont sur Disney Plus. Enfin, on Disney Plus. Franchement, posez-vous un dimanche après-midi, vous regardez ça en famille, ça passe vraiment bien. Ouais. En plus, il est pas très long. Hein, je crois qu'il fait une heure trente, quelque chose comme ça.
Hein. Non, pas loin de 2 heures, hein, je crois.
Ouais, quand même. Attends, voilà, 108 minutes il fait. Ouais.
Combien ?
1h40, 108 minutes que je vois ici.
Ah bon, d'accord, il me semblait que c'était plus, tu vois, mais je... Ouais, 1h40, oh, ça va.
Ouais, voilà, ça va, quoi. C'est pas... Mais donc, c'est pour moi, je trouve que c'est un film qu'il faut vraiment, vraiment voir. Alors, dans les autres acteurs, on a celui qui joue Cliff Secord, donc Billy Campbell, qu'on a vu dans d'autres films, enfin, notamment dans des séries, dans Helix, très bonne série si vous ne l'avez pas vue. Uniquement la première saison, la deuxième saison j'ai beaucoup moins aimé, mais la première saison d'Elix c'était bien. Il a joué aussi dans quelques autres films pas très notables, mais il a joué dans les séries notamment The Killing, les 4400. Ouais,
The Killing c'est particulier, c'est pas le même genre, hein.
Oui, c'est différent, on va dire.
Ouais, très différent, mais effectivement c'est un acteur qui étrangement a pas percé plus que ça finalement.
Non, en fait, on
l'a toujours vu,
mais il a fait beaucoup de second rôle, etc. Mais apparemment, je vois qu'il joue dans la nouvelle série Mr. and Mrs. Smith, qui passe sur Prime.
Je suis en train de la regarder.
Que j'ai pas regardé.
Je l'ai pas encore vu. J'ai regardé la série, j'ai vu 2-3 épisodes et je l'ai pas encore vu, je crois.
Mais on voit dans pas mal de séries.
Si, mais je viens de le voir. Ça me revient parce qu'il a changé physiquement. Oui, c'est ok.
Ah oui, il a vieilli.
Ouais.
Ça fait quelques années.
Si, tout à fait.
Donc voilà, ça c'était donc c'est l'acteur principal du film. Et alors, il y a la magnifique Jennifer Connelly qui joue dans ce film. C'était un de ses premiers rôles.
Oui, elle était toute jeune. On a du mal, on la reconnaît pas vraiment d'ailleurs.
On la reconnaît difficilement parce qu'en plus, elle est. Enfin, tu vois qu'elle est encore un peu ado, un petit peu. Tu sais, elle a le visage un peu rond comme ça, qu'elle a plus du tout maintenant. C'était vraiment un de ses tout premiers rôles. Jennifer Connelly qu'on a retrouvé là récemment dans.
Dans la super série.
J'ai complètement pas le nom en tête.
Snowpiercer,
oui.
Exactement.
Elle a joué là-dedans, elle a joué dans Le jour où la Terre s'arrêta.
Oui, c'est vrai. Et dans Top Gun Maverick, attention.
Oui, c'est vrai.
C'est la copine
de Tom Cruise. Dans le premier Top Gun aussi. C'était dans Maverick, ouais, c'est juste. Elle a joué dans plein de trucs. Et c'était quand même son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était son 9e rôle dans Les Aventures de Rocket Tyr.
Ah oui, elle était dans Labyrinthe avec David Bowie.
Elle a joué dans Labyrinthe, c'est vrai, oui, c'est juste.
Ouais,
c'est vrai que c'était elle aussi.
J'adore ce film aussi.
Ah, moi aussi. Un excellent film. Bon, vous aurez compris, c'est un peu. On se souvient des vieux films qu'on aimait bien.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, mais bon, le but, c'est quand même de parler de Rocket Tyr. D'ailleurs, elle a aussi joué dans Spider-Man Homecoming. Elle joue la voix de Karen. Voilà, vous le saurez.
Voilà, faut le savoir.
Eh, c'est vrai, elle joue dans Alita Battle Angel aussi. J'avais oublié.
Ça fait très longtemps que j'ai pas vu, mais un film que j'adore aussi.
C'est vrai. Complètement oublié qu'elle avait joué là.
Mais elle est très présente, hein, on la voit souvent.
Ouais, c'est vrai. Hein, c'est une excellente actrice. Hein.
Ouais.
Elle est vraiment très bien. Donc ça, c'est un de ses premiers rôles. Et alors, on a déjà évoqué Timothy Dalton. Il y a aussi Alan Arkin qui joue le rôle de Peavy.
Oui, qui a fait énormément de rôles. Enfin, ouais, c'est un immense acteur. Hein. C'est... Il a une filmo. Alors attends, on va regarder sa filmo, je me rappelle. Ouais,
il a joué dans Little Miss Sunshine, dans La méthode Kominsky, Braquage à l'ancienne aussi, un film un peu plus récent.
Ouais. Et apparemment, il a eu dans Edouard.
Edouard Margent,
oui.
Ouais, c'est vrai.
Non, il est décédé il n'y a pas très très longtemps.
Le 29 juin 2023.
D'accord, oui.
Okay. Donc il y a vraiment pas très longtemps. Il a joué aussi dans Mega Noël. Dans Super Noël 3, pardon.
Je suis pas sûr de l'avoir vu celui-là en plus. J'ai vu les deux premiers.
J'ai vu il y a pas longtemps, mais je me souviens pas, tiens. Dans Max la Menace aussi, il a joué. Il a joué dans pas mal de films. Ça se fera un excellent acteur.
Ouais.
En fait, ce film, c'est assez marrant parce que.
Il était en Dumbo aussi. De Tim Burton.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est juste. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, ce film, y a de très très bons acteurs qui jouent dedans, pas un film qui a énormément percé, qui est connu partout, quoi. Donc, c'est...
Moi, je me rappelle quand c'était sorti, ça faisait le buzz quand même. Hein. On en parlait quand même beaucoup. Hein. J'en ai souvenir que c'était une bonne surprise. Et c'était, enfin, en tout cas, de ce que je me rappelle, c'était un peu un événement. Alors après, est-ce qu'il a marché au box-office, je sais pas.
On
en parlait beaucoup.
Bon, on peut en parler maintenant rapidement du box office. Attends, je reprends mes notes parce que du coup, je suis pas au bon endroit. Alors, son score sur Rotten Tomatoes est de 66%, donc c'est pas ouf. Notre moyenne sur les critiques, il a 6,2 sur 10 en moyenne. Et au box office, il a rapporté. 9,6 millions de dollars le week-end de l'ouverture. Donc pas mal quand même. Et il est sorti que dans 1600 cinémas aux États-Unis. Franchement pas mal. Et il a rapporté environ 46 millions. Ouais, donc pas mal quand même.
Ouais, pour l'époque c'est pas mal.
Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais.
Mais c'était une bonne surprise, je pense que personne ne s'attendait à ça.
Ouais, en fait le film était prévu à la base pour lancer une trilogie. Mais malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Bon, voilà. Parce qu'en fait, il est sorti aussi. Il faut se rendre compte qu'il est sorti sur des. Il y avait d'autres films qui étaient en face de lui. Il y avait Dick Tracy, il y avait Quoi de Neuf Bob. Il y a eu la ressortie des Sœurs Dalmatien à ce moment-là aussi. Il y a eu en fin d'année.
Dick Tracy, je me rappelle.
Ouais, donc il y a eu quand même pas mal de trucs qui sont sortis à ce moment-là. Qui ont fait aussi que, malheureusement, il n'a pas aussi bien marché. Il y avait en fait une suite du film avec donc pour personnage une afro-américaine. L'action devait se placer 6 ans après l'histoire principale. Ça s'appelait The Rock Tears au pluriel. Mais voilà, il n'a jamais été fait. Ça c'était en 2016 qu'il y avait cette. Il y a eu au départ une trilogie qui était prévue qui n'a jamais pas eu lieu. Puis en 2016 il y a eu un revival qui est sorti. Et par contre, on a quand même eu droit en 2019 à une série sur Disney Plus. Sur Disney Junior, pardon. J'ai tellement envie de dire Disney Plus. Justement, pas Disney Plus. Qui s'appelle Rocket Tear. Qui est vraiment une série pour enfants. Hein. C'est une série d'animation 3D.
Qui est assez récente ou.
Oui, c'est 2019. Hein.
D'accord.
C'est vraiment 2019. Et alors, en fait, l'histoire, c'est la petite fille de Cliff qui récupère en fait un jetpack aussi. Il y a 22 épisodes de 22 minutes. Il y a même pas beaucoup d'informations sur le synopsis, etc. C'est assez pauvre en fait, sur cette série-là. En fait.
Et ce n'est pas sur Disney+, malheureusement.
Ce n'est pas sur Disney+, ça c'est très triste. En tout cas, pas en France ni en Belgique. Donc voilà, c'est une petite fille de 7 ans qui est la petite fille de Kiskior qui deviendrait la prochaine Rocket Tear en fait. Donc a priori, il part du principe que les Rocket Tears ont continué à exister par après. Et donc voilà, et elles sont en train à protéger la ville en fait, dans un premier temps. Voilà un peu l'histoire de ce petit dessin animé. J'avais vu un épisode vite fait en passant, en zappant sur Disney Junior.
Ouais, et alors, ça m'a l'air bien ou
C'est Disney Junior, hein. Donc c'est vraiment pour les petits. Tu vois bien que la cible, c'est les enfants de 7-8 ans, quoi.
D'accord.
Donc, c'était pas exceptionnel, mais apparemment, elle a pas trop mal marché. Mais il y a quand même eu qu'une saison. Bon, après, c'est souvent le cas avec comme avec les séries Disney Junior, il y avait 22 épisodes, voilà. 22 D'accord. épisodes, à chaque fois un épisode, c'était deux petites histoires, en fait. Donc voilà un peu ce qu'il y a pu y avoir. Alors, notons aussi, rapidement, il y a eu un jeu vidéo qui est sorti en 91, édité par Bandai sur la NES.
La Super Nintendo.
Ouais. Et du coup, j'ai découvert ça en préparant ce podcast. C'est un jeu de plateforme en 2D. Et ouais, je vais essayer de trouver un
émulateur
de ce jeu parce que j'ai envie de voir ce que ça donne.
Bon, ça ne doit pas être mémorable. Souvent, à l'époque, quand il y avait des adaptations de...
C'était le même jeu où il changeait les sprites, en fait.
Ouais, voilà, c'était souvent pas terrible. Les adaptations de films, jeux vidéo, ça pas... c'est souvent un peu chaotique. Il y a eu des exceptions, ouais. Notamment le jeu d'Aladdin. Qui était exceptionnel.
C'est vrai qu'il était exceptionnel. Le Aladdin, il était incroyable.
Ouais.
Et donc, voilà un peu ce qui se passe autour. Alors, il y a quelques fun facts hein, qui sont sortis. À la fin du film, donc, le méchant s'écrase sur le panneau Hollywood et il le détruit. Enfin, il détruit les lettres Land, en fait, de Hollywood Land, puisqu'avant, Hollywood s'appelait Hollywood Land.
Oui.
Et donc il le détruit. Le Bulldog Café, donc qui est le café dont on parlait, qui se passe, enfin où travaille Jenny, donc Jennifer Connelly. D'ailleurs, ils se sont pas foulés hein, pour le prénom de Jenny, hein, Jennifer Connelly. Jenny, bon.
Oui. Sans dire, voilà. Bah, toi, tu t'appelles Jennifer.
Et voilà, c'est ça. On va faire simple. Hein.
Ah, ça, peut-être qu'elle est dans les comics et qu'elle s'appelle Jenny.
Ouais, c'est vrai que dans les comics, je sais pas. Ouais, si, encore une fois, si quelqu'un a lu les comics ou les possède, on est très intéressé. en fait, voilà, on a fait cet épisode juste pour que vous nous trouviez les comics. Hein, voilà.
Exactement.
La communauté. Il y a le Bulldog Café, donc qui est inspiré d'un restaurant qui était encore ouvert dans les années 90, qui avait été construit dans les années 20, dans les années 90, pardon, qui avait été ouvert dans les années 20. Alors, il y a quand même eu au niveau comment promotion du film une émission spéciale qui est sortie qui s'appelait Rocketeer Excitement in the Air qui a été faite le 19 juin 1991 pour vraiment faire la promotion du film.
Ah oui, quand même.
Ouais, il y a eu. En fait, c'est comme tu disais, il y a quand même eu pas mal de trucs autour.
Oui, je me rappelle. Ouais.
Bon après voilà, moi j'ai pas vraiment connu parce que bon, j'avais 3 ans quand il est sorti, donc moi j'ai connu la cassette surtout. Mais bon voilà, c'est. Il y a quand même eu pas mal de trucs autour. Oui, tout ça, on l'a dit déjà tout à l'heure. Voilà, on en a parlé de ça. Donc voilà un peu ce qu'il y a autour du film. Juste pour que vous sachiez un peu, le réalisateur, c'est John Johnson qui a réalisé Chérie, j'ai rétréci les gosses, Jumanji, Jurassic Park 3. Bon, c'est pas le meilleur, mais quand même. Et Captain America, First Avenger aussi.
Oui, bah, ça va.
Donc voilà, c'est
même,
pas
même Jurassic Park 3, il est pas mal.
Oui, hein. Voilà, c'est pas le meilleur, oui. Mais c'est pas le pire non plus. Hein. Je trouve
qu'il est même meilleur que le 2.
Ah, il y a débat.
Et le 2, c'est Spielberg et c'était quand même décevant, je trouve.
Ah, moi, j'ai quand même bien aimé le 2.
Oui, mais j'aime bien aussi.
Ce Jurassic Park, tu sais, ça se regarde. Hein. Même les Jurassic Park, je regarde. Hein.
Ouais, ouais, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est clair.
Il y a des dinosaures.
Avec voilà. Grand plaisir.
Donc voilà un peu. Alors on va repasser un peu en revue le film hein, rapidement avec notamment ces grandes scènes. Donc vous l'aurez compris, c'est un épisode qui sera un peu plus court que les épisodes habituels. Mais voilà, on avait envie d'en parler un peu. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Donc moi, il y a une scène que j'aime vraiment beaucoup. Alors mis à part la scène dans le zeppelin, parce que oui, il y a un zeppelin au-dessus de Los Angeles.
oui.
Voilà. C'est la scène dans le restaurant.
Oui, bah c'est une scène très belle. Enfin, scène.
C'est une scène qui est magnifique parce que les lumières sont vraiment incroyables et puis il y a de l'action partout, c'est vraiment pas mal. Et c'est justement ce qu'on expliquait un petit peu, cette partie un peu infiltration, film d'espionnage qui peut être faite à ce moment-là où Cliff se fait passer pour un
bah, cette scène m'a rappelé la scène d'introduction d'Indiana Jones et le Temple du Péril.
Ah oui, effectivement.
Je pense qu'ils sont inspirés.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant que tu dis, ouais, c'est vrai que ça ressemble fort. Ouais.
Ça, voilà, ça m'a fait beaucoup penser. En plus, le héros qui est habillé en serveur blanc, alors que Indiana Jones avait sa veste blanche aussi. Enfin, il y a plein de choses.
Ouais.
Je sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas, la scène m'a fait beaucoup penser à ça.
Bref, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes pour que ce soit que du hasard, je pense.
Oui, bah, c'est inspiré de tout ce qu'on a dit. Hein, donc, oui, bien sûr.
Ouais, effectivement, c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Alors, il y a aussi de très belles scènes aériennes. Je trouve qu'ils sont
Franchement, c'est bien fait.
Enfin, le film en lui-même est vraiment bien. Hein. Notamment, il y a des magnifiques scènes. Donc, les avions, c'est des biplans, hein, puisqu'on est dans fin des années 30. On a quand même la scène où Cliff utilise le jetpack, la première fois où il l'utilise, pour aller sauver... Alors, je retrouve le nom, c'est Malcolm, qui était pilote d'un des biplans. Et au final, c'est ça qui lance un peu l'aventure. Hein. C'est en fait, donc, pour vous expliquer un petit peu, donc en fait, Cliff trouve le jetpack dans une grange qui a été caché là par les personnes qui l'ont volé. Il le trouve là-dedans et puis il l'essaye en fait. Et notamment la fameuse scène avec où il se met à l'arrière de la camionnette, qui est incroyable aussi. Il utilise le jetpack pour plus la camionnette.
Franchement, c'est vraiment bien fait. En plus, point de vue effets spéciaux, ça passe. Hein. Franchement, on voit qu'il y a des effets spéciaux, mais c'est bien. Peut-être ça a été remasterisé, je sais pas. Mais c'est étonnamment, ça passe très bien. Les effets spéciaux sont de qualité.
Il faudrait que je retrouve un vidéo pour revoir la VHS. Et je pourrais dire que retrouver un vidéo. Ouais. Mais je me demande si mon père en a peut-être pas encore un qui traîne. Il faudrait que je lui demande, tiens.
C'est possible.
Mais oui, il y a quand même pas mal de scènes qui sont assez avec beaucoup d'effets spéciaux avec des explosions un peu partout aussi.
Ouais, non mais c'est spectaculaire, ça bouge, on s'ennuie, il y a pratiquement pas de temps mort dans ce film. Non. Et juste pour revenir vite fait pendant que j'y pense pour la distribution, j'ai eu la bonne surprise en voyant dans le début du film un personnage qui est joué par un de mes acteurs préférés, Terry O'Quinn.
Oui, en plus, on en a parlé juste avant, je crois. D'en parler, oui, tu fais bien.
Alias John Locke dans Lost. Donc, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait plaisir de le revoir.
Ouais, moi aussi, c'est vrai que c'est un très très bon acteur.
Et en plus, il change pas beaucoup. C'est un extraterrestre, je pense.
Oui, mais c'est un peu comme Jean-Luc Picard. Enfin, Jean-Luc Picard.
Oui, je vois.
Rick Stewart, qui ne vieillit pas non plus.
Ouais, c'est vrai. Il
fait partie de tous ces acteurs qui ne vieillissent pas. Mais oui, c'est vrai qu'il joue très bien. Terry O'Quinn, si vous ne situez pas, c'est John Locke dans Lost, hein, c'est celui qui est en chaise roulante.
Je viens de le dire.
Tu l'as dit. Oh,
je n'ai oui. pas précisé en fait, chaise roulante. Il n'est pas toujours en chaise roulante, ça dépend où.
Bon, ça dépend de la série, de la scène, oui.
C'est compliqué.
Oui, c'est. Si vous n'avez pas vu Lost, c'est aussi une très bonne série à regarder.
Ah oui, ça c'est sûr.
Excellente série. D'ailleurs, on n'a pas parlé avec Benji de faire un épisode.
Si, c'est prévu, dessus. Oui.
Ça semble bien.
Ouais.
Donc voilà un peu au niveau des personnages. Donc au niveau de l'histoire, bon, ben voilà, c'est une histoire assez simple. Il trouve le jetpack, il fait un petit acte héroïque. Le FBI se rend compte qu'on a retrouvé le jetpack. Ils arrivent à l'attraper, puis il arrive à s'échapper. Donc il est quand même amené à devant Howard Hughes, donc qui est joué par Terry O'Quinn, qui est donc l'inventeur du jetpack. Et en fin de compte, il arrive à s'échapper. Alors je trouve que la manière dont il s'échappe, il saute par une fenêtre, par la fenêtre du bureau de Ward, et ensuite il active le jetpack, il s'accroche à une maquette d'avion et puis il s'envole avec l'avion. Et là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est la réflexion qu'il fait. Alors, j'ai plus les mots exacts en tête. Toi, tu les as peut-être comme t'as vu le film hier.
Ouais, dis-moi. Ouais.
Mais c'est vraiment, il dit ah oui, en fait, il s'est volé même sans le jetpack, donc il peut l'avoir, quoi.
Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est le côté. C'était ta gueule, c'est magique, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, ouais, c'est.
Non, mais il y a pas. Ben en fait, c'est un film qui est tellement frais, donc ça passe, on s'en moque des incohérences. C'est comme, je sais pas si tu te rappelles, quand Timothy Dalton comprend que Jenny, c'est la petite amie du Rocketeer, et donc qu'il a la renquête, ben donc c'est fini, il sait où aller. Et ben
oui,
ça prend
ça,
trois plombes, il l'invite au restaurant pour savoir des choses alors qu'il suffisait de...
Oui,
de la suivre
ça.
Et puis voilà, c'était petite incohérence
en fait.
Ouais, voilà. Donc non, il y a plein de et c'est très fun à regarder.
Ouais, et puis il y a aussi les quelques gangsters qui travaillent pour
oui, il y a des acteurs mythiques que vous allez tous reconnaître si vous connaissez les films des années 80-90.
Ouais.
Paul Sorvino qui fait tout le temps les mafieux, ben il fait tout encore un mafieux.
Bah, il fait un mafieux. Hein, voilà.
Donc non, il y a plein d'acteurs John Polito aussi, enfin bon, bref. Il y a vraiment une brochette d'acteurs impressionnante. Tous les acteurs un peu iconiques des années 90, 80, ils sont dedans.
Ouais.
comme William Sanderson qui est dans Blade Runner.
Ah oui, c'est vrai, effectivement.
Et il est donc là dans beaucoup, beaucoup de films. Donc voilà. Bon, ça, on est revenu sur les acteurs là.
Oui, c'est vrai, ouais, faut...
ça part dans tous les sens.
Oui, voilà. Il y a moins de fil conducteur que d'habitude. Et donc voilà un peu le synopsis. Alors, enfin, je trouve que ça, enfin, c'est un film qui est vraiment très bien. La maison du méchant est tellement comment enfin, à la fois iconique et puis tellement générique dans c'est la maison du méchant qui est riche, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, c'est très cliché. Hein, de toute
voilà,
façon.
C'est ça. Avec avec une partie comme il est espion pour le compte de l'Allemagne nazie. Bah, en fait, il a sa petite zone un peu secrète avec la croix gammée, avec un appareil pour faire pour envoyer des télégrammes directement en Allemagne, etc. Bon, voilà, c'est ça. Ça passe bien, quoi. Enfin, il y a tous les clichés qui sont là. Et puis, il y a notamment, donc on en parlait, hein, donc le méchant dans l'histoire, Timothy Dalton, est en fait un acteur dans le film. Et alors, il tourne un film qui est un film de KPDP.
Oui. Mais comme les films de KPDP à l'époque, hein, c'était ça, hein. Quand tu revois le vieux Robin des Bois, c'était comme ça, par exemple.
Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est très un peu surjoué, un peu...
Tout à fait.
Mais ça passe bien, quoi, avec le décor en carton-pâte, etc. avec justement Jenny, en fait, elle, pour resituer un peu, Jenny, en fait, est actrice, enfin, voudrait être actrice, et elle joue justement dans ce film-là. Et c'est comme ça, en fait, que Timothy Dalton se rend compte qu'elle est... Enfin, qui la connaît, enfin, elle voudrait justement se rapprocher de lui pour essayer d'avoir une carrière d'actrice, et puis en fin de compte, lui se rend compte qu'elle est liée au Rocketeer.
Et c'est là qu'il comprend que son petit ami, c'est lui qui a le Rocketeer.
Ouais, voilà.
Et il met trois plombes au lieu de dire à ses acolytes, bah va chez lui, c'est lui qui a le jackpack, bah non.
Oui, c'est ça, quoi. Oui, parce qu'au final, en fait,
ça m'a choqué, ça, en fait.
Je crois que c'est après le restaurant, il kidnappe Jenny, c'est ça, hein.
Oui, ouais, oui, oui, bah, il y a la fameuse scène du restaurant que t'aimes bien, et puis ouais, après, il la kidnappe. Oui,
il la kidnappe à la fin pour. Ah oui, il y a aussi le truc le plus important, le chewing-gum. Donc, durant la scène du restaurant.
Au début, je me suis dit, mais ça sert à quoi pour le coup du chewing-gum?
Ah ouais, mais c'était. Ouais, moi, c'est le truc qui m'a marqué, ça. Donc, en fait, il y a durant la scène du restaurant, bon, voilà, en gros, ils se battent, etc. Mais à un moment, il a le jetpack sur le dos, et il rend cette image, je la revois toujours, où il est sur le plateau à roulettes avec le jetpack sur le dos. Oui. Et il est là sur la desserte avec le jetpack, il va à 300 à l'heure dans le resto. Et en fait, il se prend une balle au niveau du jetpack, donc il y a une fuite de carburant. Et Pivi, en fait, prend le chewing-gum de la bouche de Clifford et en fait rebouche le.
Oui, parce qu'au tout début du film, une des premières scènes, il colle son chewing-gum sur l'avion parce que c'est un peu un porte-bonheur pour lui.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et je crois qu'il fait même tenir la photo de Jenny sur l'avion, je pense. Hein.
Oui, oui, oui. Ouais.
C'est ça, hein, ouais.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et en fait, donc, il colle le chewing-gum à l'endroit du trou qu'a fait la balle, au niveau de l'admission de carburant. Alors, un chewing-gum, en vrai, ça tient pas. Alors, déjà un jetpack.
Après, voilà. Ouais.
Déjà un jetpack de ce type-là. Faut voir vraiment le jetpack comme le jetpack hyper basique avec. En gros, il a deux fusées sur le dos. Hein. On en est là.
Il se brûle jamais les fesses. Hein.
Oui, il a jamais chaud aux fesses. Alors, on remarquera quand même qu'il a une tenue en cuir, hein, donc ça le protège un petit peu. Voilà.
Ouais.
Bon. Hein. mais voilà, l'admission de carburant, elle est protégée avec un chewing-gum. Donc tout va bien.
Il est carburant infini en plus. Hein.
Oui, ça aussi, oui, parce qu'il a jamais de problème de carburant. À part si à un moment, quand il s'envole la première fois. Ah non, c'est pas un problème de carburant. Non, c'est juste qu'il n'arrive pas à gérer l'arrivée. Oui, c'est juste.
Oui, c'est ça, oui.
Oui, donc jamais de problème de carburant non plus sur un truc qui fait la taille d'un gros sac à dos Eastpak. Hein.
Mais c'est pour ça, c'était révolutionnaire, c'est pour ça que les nazis le voulaient.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que alors il y a aussi un film promotionnel où on voit les nazis tous avec. Alors c'est un peu tourné en mode dessin animé comme ça, où en fait les nazis ont tous un jetpack sur le dos et puis on voit une armée de nazis qui est. Honnêtement, c'est. Enfin, le film est sorti dans les années 90, donc ça passait encore plus loin, mais. Enfin, je trouve que cette scène où on survend un peu l'armée allemande comme ça, je trouve ça un peu. Bah, je sais pas, moi ça m'a toujours impressionné en fait de voir ça, l'armée comme ça avec avec tout ça.
Bah, c'était l'objectif. Enfin, c'est à peine exagéré. Hein, c'était l'objectif de l'Allemagne nazie. Hein, ils avaient toujours cherché des trucs de technologie.
Oui, pour un peu avoir des super soldats quoi.
Tout à fait, ouais.
Donc voilà, donc une fois donc Jenny découvre donc que Timothy Dalton est un espion pour le compte de l'Allemagne. Et elle est forcée de demander à Cliff d'apporter le jetpack. Alors ça se passe encore une fois à l'Observatoire Griffith. Si vous ne connaissez pas, c'est l'observatoire qu'on voit dans tous les films qui se passent à Los Angeles.
Voilà.
voilà, hein, c'est le bâtiment blanc avec une coupole, hein, voilà, qui est toujours là-bas. Mais donc, c'est à ce moment-là que Cliff se fait arrêter par le FBI et est conduit devant Howard Hughes, donc, qui est joué par Thierry O'Quinn, et qu'en fait, il lui explique que c'est un prototype qui est un peu similaire à ce que les nazis voulaient faire, mais que les Américains ont réussi à le faire et pas les nazis.
Évidemment, c'est les Américains les plus forts.
Voilà, évidemment. c'est là qu'on voit le film de propagande nazie. Enfin, moi, honnêtement, ça, c'est vraiment le truc qui m'a marqué, ce film de propagande nazie. Je sais pas toi, mais après, j'étais petit quand j'ai vu le film, hein, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a.
Oui, non, bah. Moi, ça m'a pas marqué plus que ça, parce que c'est très Indiana Jones, c'est très.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai.
C'était dans les années 80-90, souvent les méchants étaient nazis. Enfin, c'était.
Oui, c'est vrai que c'était.
Surtout dans les films d'aventure de cette époque.
C'était le méchant de base, quoi.
Ouais, exactement, ouais.
Ouais.
Après, c'était les Russes dans les James Bond, mais.
Oui, c'est vrai qu'après ça a été plutôt. Ouais. Et donc, il mentionne, c'est là aussi qu'il mentionne que le FBI cherche un espion nazi à Hollywood. Bon, voilà, qu'on sait maintenant que c'est Timothy Dalton, pardon.
Oui, Timothy.
Alors, donc c'est là que Cliff s'échappe, ce que je trouve incroyable. La scène où il s'échappe, enfin voilà, ça fait bondir mon petit cœur d'enfant. Donc, comme je vous ai dit, hein, il s'accroche à un avion, ouais, une paquet de l'avion.
On sent tes souvenirs remonter là.
Ouais, c'est vraiment ça. Et donc voilà, il arrive à partir. Et ensuite, il retrouve en fait au final, on arrive à la scène finale du film à peu près, hein,
ouais.
Où
combat
on a
final.
Un zeppelin, donc un dirigeable allemand qui est au-dessus de Los Angeles, et ça ne choque a priori personne. Hein,
non, parce c'est normal.
Enfin voilà, au final, il n'y a pas 50 000 policiers qui s'amènent ou l'armée ou quoi que ce soit. Non, il y a un dirigeable avec une énorme croix gammée dessus. Ça passe.
Oui, c'est normal. Voilà, c'est normal.
Pourquoi pas. Donc au final, Cliff arrive là-bas pour donner le jetpack aux méchants. Puis il s'ensuit un combat assez marrant à bord du dirigeable avec des explosions.
Ça c'est pareil, c'est une genre de scène qui fait très Indiana Jones.
Moi c'est vraiment la scène qui me fait le plus penser qu'il y a un peu une copie, mais au moins un hommage à Indiana Jones. Ouais. Moi c'est vraiment la scène qui me fait le plus penser à ça.
Ouais, c'est celle du resto aussi, moi, mais c'est de là, oui, effectivement. Ouais. Oui, non, clairement. Et pareil, c'est un petit peu ridicule la scène avec Timothy Dalton où il a mille fois l'occasion, une fois qu'il a ce qu'il veut, bah, il tue pas les gentils.
Oui, c'est ça aussi, bah, comme dans tous les films comme ça. Hein, les méchants sont méchants, mais ils expliquent leur plan.
Voilà, ils expliquent leur plan.
Une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils tuent pas tout de suite les gentils parce que bon, on sait jamais. Et ouais, voilà, c'est vraiment, faut vraiment voir ça, ce film. Enfin, c'est un film de l'époque, hein. Faut se dire, voilà, c'est les films des années 90. Si vous le regardez maintenant, que vous l'avez jamais vu, ça peut peut-être difficilement passer. Mais je serais curieux, en fait, de voir s'il y a...
Bah, ça dépend. Sincèrement, si vous êtes jeune et que vous n'êtes pas de la génération des Indiana Jones, par exemple, que vous aimez les Indiana Jones, surtout le premier, qui ont quand même un peu vieilli...
Oui, c'est vrai.
Bah, c'est pas pire, hein, en termes de... La mise en scène est solide, malgré tout, dans ce film, même si c'est moins spectaculaire qu'un film de Spielberg, c'est sûr. Mais la mise en scène est solide. Elle a pas vieilli au niveau mise en scène.
Non, ça passe toujours très bien.
En fait, je trouve que ça pas... Il y a pas grand-chose qui a vieilli, quoi. Donc,
non, honnêtement, hein. le côté le méchant, c'est les nazis. À part ça, le film passe encore très bien.
Le film est rythmé. Franchement, ouais. Il passe très bien. Il a pas vieilli, moi, je trouve. Donc, peut-être d'un point de vue visuel, il a légèrement vieilli, mais
et encore,
ça fait encore. Hein.
En fait, il n'y a pas d'effet numérique dans le film, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. On est vraiment sur des effets pratiques. Toutes les explosions, c'est des vraies explosions. J'avais vu un making-of.
Oui, enfin, quand ils volent dans le ciel, on voit que c'était pas numérique, je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais c'était.
Mais c'était filmé sur comme les premiers Superman, tu vois, c'était un peu filmé en fond vert.
C'était des fonds verts, oui.
Ouais, voilà, donc, bon, voilà, c'est avec de l'incrustation, mais. Mais par contre, tout ce qui est explosion, etc., ça passe encore très bien. L'explosion de Sinclair à la fin, quand il enfile le jetpack avec le chewing-gum que Cliff a enlevé, et ce qui du coup fait que le carburant s'enflamme.
Même dans la scène du début où il est dans le biplan et qu'il se pose en catastrophe.
Oui, ça passe très bien encore.
C'est en practical, c'est super. Franchement, c'est impressionnant.
Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas évoqué au départ, mais donc Cliff est pilote de course, en fait, pilote d'avion de course. Il a
D'ailleurs, il a un avion comme dans Planes.
Oui, c'est vrai.
Chez Disney. El Chupacabra, je crois, il s'appelait.
Oui, c'est ça, un truc comme ça, oui.
El Chupacabra dans Planes. Ben voilà, c'est cet avion. C'est cet avion-là qui pilote.
C'est un Granville GB Model Z. Voilà, vous le saurez. Parce qu'ils sont des avions magnifiques. Hein. Enfin, moi, c'est toujours le genre d'avion qui m'a fait rêver quand j'étais petit, quoi.
C'est bien ça. C'est le même. C'est El Chupacabra dans Planes. Vous pouvez regarder. Et d'ailleurs, je pensais que l'avion était plus grand que ça, mais en fait, c'est des avions qui étaient tout petits. Hein.
Oui, mais avec des énormes moteurs. Hein. C'est vraiment des avions d'acrobatie et de.
Ouais.
Qui sont prévus pour faire ça, quoi. Donc, voilà le début du film, en fait, parce que c'est qu'on on est vite rentré dans le vif du sujet, mais en gros, il crache son avion pendant une course aérienne, et donc, il a plus d'avion pour faire son boulot, et donc il doit retrouver un avion rapidement. Et en fait, à la fin, évidemment, le patron super gentil qui avait designé le jetpack lui donne un avion, et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau, je trouve. C'est un beau geste. Et donc voilà un peu le synopsis du film. Je sais pas s'il y a d'autres scènes sur lesquelles tu veux revenir. Après, voilà, comme on disait, le film est très rythmé.
Oui.
Il y a toujours de l'action, en fait. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est calqué sur les Indiana Jones, hein, clairement. Ouais. Avec une teinte, comme on l'a déjà dit, de James Bond, de fantastique, un peu. C'est un mélange parfait, quoi. Donc, sinon, en scène qui m'a marqué, je crois qu'on a tout détaillé, toutes les scènes plus spectaculaires. Et toutes les scènes avec le requin à la James Bond qu'on a dans le film, elles sont toutes impressionnantes. Je me disais, il te faisait pas peur, lui ?
Un peu, ouais. Surtout quand il arrive dans l'hôpital.
Ah oui, non, c'est la première scène. Et puis, franchement, quand il zigouille le mec, ça va être impressionnant pour les petits.
Là, j'avoue, ouais, parce que je crois que je dois l'avoir vu. Le film est sorti, j'avais 3 ans. Je pense que je dois l'avoir vu à 5-6 ans, un truc comme voilà. Bon, après, j'avais vu Jurassic Park, donc voilà. Hein, j'étais pas trop impressionné quand j'étais petit par les films. J'ai vu Jurassic Park à la sortie au cinéma, donc en 93, si je me souviens. Donc j'avais 5
ans. T'avais quel âge ?
5 ans.
Mais t'avais le droit d'aller. C'était pas interdit de.
Non, j'avais pu aller le voir. J'avais pu aller le voir avec mes parents. Et en fait, il y avait pas. Alors, je sais pas si c'était spécifiquement en Belgique ou quoi, mais il y a pas d'âge, il y a pas de restriction d'âge.
Mais tant que t'es accompagné, ça va. C'est un truc.
Tant que j'étais accompagné par mes parents, ça allait. Et alors, toutes les 25 secondes, mes parents me demandaient si ça allait quand j'avais été le voir. Mais au final, moi, j'ai adoré ce film. Et c'est la. Je crois même que c'est la seule fois où on est sorti du cinéma et on a été revoir le film une deuxième fois.
Ouais.
Quasiment tout de suite, parce que on avait bien aimé le film. C'était à l'époque où le cinéma ne coûtait pas 2 reins aller voir un film.
C'était
notre époque. Mais donc, ouais, je pense que je dois l'avoir vu. Je devais avoir peut-être 5-6 ans quand j'ai vu Rocketeer. Et je l'ai regardé jusqu'à. Enfin, voilà, j'en ai 35 et je le regarde toujours. Donc, c'est vraiment le genre de film. On parle parfois comme ça un peu de film doudou qui nous réconforte. Voilà, moi, c'est ce genre de film là qui passe toujours.
C'est ce genre de film doudou, parce qu'il y a des films doudou que tu te rappelles d'avoir apprécié quand tu étais jeune.
Oui.
Mais où tu es extrêmement déçu quand tu les revois.
Oui, c'est vrai.
Maintenant, alors ce n'est absolument pas le cas.
Non, ici, franchement, il passe toujours très bien. C'est, alors évidemment, on va pas le comparer à un Star Wars, on n'est pas du tout sur le même type de film, mais c'est un film que je prends vraiment plaisir à regarder encore régulièrement. J'ai essayé de le montrer à ma fille, mais elle est pas trop cliente de ce genre de film. Elle a regardé les Indiana Jones, elle a bien aimé, mais ici elle a pas trop aimé le côté que ça se passe avec des avions, etc. Elle a regardé les 10 premières minutes du film, on voit que les avions, donc c'est peut-être ça aussi.
Ouais, c'est plus, ça attire plus le, peut-être les garçons.
À mon avis, ouais, c'est
départ,
plus un film pour garçons, je pense, ouais. Et à mon avis, je pense que c'est pour ça aussi que la série animée qu'ils ont fait justement avec sur Disney Junior, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis une petite fille.
Essayer
d'attirer un autre public, je sais pas.
Ouais, tout à fait, ouais. Possible. Effectivement.
Voilà un peu. Alors, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce qui se passe autour du film. Il y a eu quelques expositions avec les maquettes du film, avec les costumes aussi qui ont tourné aux États-Unis. C'est jamais arrivé en Europe apparemment. Enfin, j'ai regardé rapidement, j'ai rien vu. Et alors, il faut quand même noter que la musique du film, elle passe à Disneyland Paris.
Au Est-ce studio que tu sais où?
Non.
Attends, je sais même pas au courant de ça.
Et ouais, il y a juste une partie de la musique en fait qui passe à côté de Space Mountain. Dans le loop de Space Mountain, il y a la musique de Rocketeer.
Dans la file d'attente? Ah, dans le loop quand...
Dans le loop autour de Space Mountain, oui.
Autour de... Ah, tiens, d'accord. Bon, en même temps, je t'avouerai que j'ai pas trop... J'ai vu le film hier, la musique m'a pas marqué.
Mais en fait, c'est vraiment... Il y a une partie...
Il y a pas de thème, tu vois, je... J'ai pas retenu la musique.
Il y a vraiment une juste petite partie qui passe... Qui passe vraiment juste... qui est dans le loop du Space Mountain, en fait.
Et tu te rappelles de l'air? Moi, je me rappelle pas.
Attends.
Parce que tu vois, les musiques comme Indiana Jones, James Bond, tout ça, t'as un thème qui te marque tout de suite, la Rocketeer. J'ai pas fait attention à la musique, en fait.
Attends, je te l'envoie. Tu vas écouter. Il y a vraiment... C'est... Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.
Ah oui, maintenant que tu le fais, oui, tout à fait.
Tu vois, et en fait, il y a cette petite partie-là qui est un moment dans le loop autour de Space Mountain.
D'accord, ah, bah, tu vois, j'avais jamais.
Et qui n'était pas à l'ouverture du parc quand il n'y avait pas Space Mountain, voilà.
Oui, d'accord, ça a été vraiment fait pour. Et c'est que pour Disneyland Paris
ou... Je sais pas, j'ai pas trouvé l'info. Et encore, il y a vraiment une toute petite partie, j'ai pas vraiment trouvé. Beaucoup d'endroits, ils en parlaient en fait de ça. J'ai trouvé un forum où effectivement les gens disaient qu'il y avait bien ce morceau de musique là, donc c'est pas moi qui l'ai rêvé.
Tu l'as déjà remarqué toi?
Ouais, je l'avais remarqué, mais enfin, comme je dis, quand j'ai commencé à aller à Disneyland Paris, c'était au moment où je regardais ce film tous les week-ends.
Ouais, d'accord.
J'exagère un peu, mais quand
j'ai regardé ça.
Ouais, voilà, c'était
vraiment.
Oui, on était plus sur ça, ouais. C'était un week-end Star Wars, un week-end Rocketeer.
Ouais.
Et c'était vraiment pas loin de ça en fait. En fait, j'étais cinéphile, mais vraiment très sélectif.
Oui, je vois ça. Bah, souvent, quand on est gamin, on a toujours un film.
Oui, c'est ça.
On passe en boucle au grand désespoir des parents en général.
Oh oui. Mais mon père aimait bien ce film-là, donc il le regardait.
Ouais, mais bon, les week-ends, peut-être qu'il en avait un peu marre.
Oui, voilà, c'est ça. c'est un peu ça.
Mais en tout cas, ça mérite un bon reboot.
Honnêtement, j'aimerais bien. Mais il y avait, on en avait parlé, hein, de cette possibilité en 2016 là, qui est un reboot de Rocketeer.
En série télé, moi j'avais cru entendre parler.
Mais à la base, ils avaient parlé d'un film et puis il y a eu effectivement une rumeur de série télé. Mais au final, à part le dessin animé, il y a rien eu et le dessin animé a pas vraiment marché énormément.
Et puis avec le Covid, maintenant tout ça, ils sont un peu frileux, je pense, donc ils vont pas trop prendre de risques à mon avis.
Ouais, c'est ça. Je pense que malheureusement, on ne reverra pas Rocketeer de sitôt.
Mais si, peut-être. Gardons espoir.
Mais déjà, s'il y avait la... Bon, après, ça reste une série Disney Junior, mais si la série Disney Junior était disponible sur Disney+, ce serait déjà pas mal. Je suis d'ailleurs assez curieux. Enfin, je comprends pas trop pourquoi il y a pas, parce que c'est eux qui ont... Enfin, ils ont les droits dessus, donc...
Oui, mais tu sais, ils retirent plein de programmes sur Disney+.
C'est vrai,
ouais. Parce qu'en fait, c'est des questions juridiques. En fait, quand tu laisses une série sur la plateforme, tu payes des droits, en fait.
Ah, ok.
Notamment à... ça a un coût. C'est-à-dire que même si ça appartient à Disney, c'est pour ça qu'ils ont retiré Willow, je crois. Ouais. Parce qu'en fait, ils doivent des sous aux ayants droit ou je sais pas quoi, aux acteurs ou je sais pas.
Ah oui, d'accord, ouais, il y a une royalty qui doit passer, des choses comme
ça. Ils suppriment pas pour supprimer, ils suppriment vraiment pour faire des économies.
Ok.
Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt de supprimer.
Alors, je viens de voir que le comics est disponible sur Kindle, chez Amazon.
Ah, bah,
en anglais. Donc, il y a peut-être moyen de... Ah, je regarderai ça. Voilà, donc il y a peut-être une possibilité de le lire, alors. Ok, et puis il y a eu aussi, à l'époque, plein de produits dérivés aussi, beaucoup de figurines de Rocket Tear qui étaient sorties, et même des petites statuettes qui étaient sorties à l'époque. Plutôt sur la version comics, alors honnêtement, vous prenez le personnage du comics et le personnage du film, c'est même, quasiment identiquement le même. Hein. Il y a juste le casque qui est un petit peu différent, parce que dans le comics, il a des proportions un peu bizarres, notamment au niveau des yeux, mais voilà, c'est quasiment le même. Et enfin voilà, ça honnêtement, c'est voilà.
Tu t'es pas procuré une figurine?
Mais non, parce qu'elles étaient pas disponibles en Europe, c'était qu'aux États-Unis. Je les ai jamais vues
à 1000 euros sur eBay.
Ouais, sur eBay, ouais.
Ça. Ouais, ça
ouais, probablement, ouais. Je regardais, tiens.
Voilà, je suis en train de regarder, il y en a plein partout. Hein.
Ouais.
Les casques là, oulala. Oulala. Et sur Etsy.
Ah ouais.
Super bien fait. Ne regarde pas, Tony.
Non, c'est trop tard, j'en ai commandé un.
Ouais.
Non, mais donc voilà, on voulait vous partager un peu ça. Donc clairement, l'épisode est plus court que d'habitude, quoi qu'on ait quand même déjà à presque une heure d'épisode.
De rien, oui.
De rien, on a quand même avancé. Oh, il y a des figurines Funko Pop de Rocket Tear. Et ça, en vrai...
Ça doit être une utilité.
Ah ouais, non, elles sont... Ouais. C'est des anciennes... Bah, 2021.
Ah ouais, alors attends.
C'est des Funko de 2021.
Une surprise pour toi. Elle est à 20 euros sur Amazon.
Oh. Oh, attends, ça je vais peut-être la commander, alors.
Je t'envoie le lien.
Merci. Ma carte bancaire ne te remercie pas, par contre. Donc voilà, c'est un épisode un peu plus relax, un peu plus... posé, mais voilà, on s'était dit qu'on voulait vous partager un peu ça, parce que voilà, c'est un film qui nous tenait un peu à cœur. Clairement, on est malheureusement sur un épisode qui est moins bien structuré que d'habitude.
Oui, mais c'est...
On s'en excuse un peu. Voilà, c'est un épisode un peu plus relax qu'on voulait faire. On voulait juste parler un peu du film et vous partager ça. La question du coup sera, est-ce que vous avez vu le film ou pas? Et puis, faudra pas hésiter à venir nous en parler un peu sur les différents réseaux sociaux.
Ouais, puis faut pas hésiter parce que c'est un film qui a marqué Tony dans son enfance. Moi, c'était pas du tout le cas. J'avais vaguement de souvenirs parce qu'on en parlait à l'époque et je l'ai vu, je sais plus à quel moment, je l'ai vu au moins une fois. Et j'ai vu donc hier soir avec un grand plaisir. Donc, si vous connaissez pas le film, vous pouvez le regarder. Si vous aimez les films d'aventure, ça va vous plaire, hein. C'est pas parce que, Tony l'a apprécié quand il était jeune, c'est un bon film.
Oui, franchement, j'en avais parlé à un collègue il n'y a pas si longtemps qui cherchait un peu des films dans ce genre-là, et je lui avais conseillé, et il l'avait vu, et au final, il m'avait dit qu'il l'avait trouvé pas mal. Bon, un peu vieillot, évidemment, comparé à des films récents, mais voilà, il passe toujours bien, quoi.
Ouais, il est super.
Voilà. Je pense qu'on va terminer doucement. L'épisode.
Your attention, please. The Disneyland Limited now leaving for a complete trip around Walt Disney's Magic Kingdom. Last call.
Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode de Maîtrise d'Actu. Comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous laisser des petits avis, notamment sur Spotify ou un peu partout où vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, Twitter, enfin X, le Discord aussi. N'hésitez pas, il y a du monde. Notamment là, ça bouge pas mal sur le Discord avec la sortie du nouveau chapitre de l'Orcana. On a les tirages un peu de tout le monde et puis il commence déjà à y avoir des petites propositions d'échange, etc. Donc si vous jouez à l'Orcana, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Et puis bon, comme d'habitude, partage un maximum l'épisode, c'est ce qui nous aide le plus. Olivier, où est-ce qu'on peut te retrouver?
On peut me retrouver sur YouTube, dans ma chaîne Olivier in Wonderland, et puis sur le podcast dédié à Disneyland Paris qui s'appelle Magic Mouse Paris.
Ouais, où tu as sorti un épisode sur Adventureland.
Tout à fait, avec Olivier.
Tu as vu ça. J'ai pas encore fini de l'écouter, mais voilà. Et puis, bah, moi, voilà, vous me retrouvez, c'est Tony PLT. Encore une fois, pas énormément de contenu qui sort de ma part, mais si vous voulez, vous pouvez y aller. Et là, je vais. Au moment où vous écoutez cet petit épisode, je suis normalement dans une suite au Sequoia Lodge. Si je ne suis pas dans une suite.
Classé à tous les coups.
Ben non, mais c'est ça, je serai dans une suite. Normalement, j'ai pris une chambre Golden Forest Club, mais je suis probablement dans une suite. N'empêche, si je suis encore surclassé, ça va être trop... Il y a un truc.
Ouais, c'est un truc, il faudra se renseigner, c'est pas possible.
Ouais, il faudra voir un peu ce qui se passe. Donc voilà, encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode, malgré tout, vous aura plu, même s'il était un peu décousu. Et voilà, on voulait vous parler un peu de ce film. Allez voir le film, franchement, il est super. Et faites des pétitions pour avoir une suite ou un reboot ou quelque chose. Ouais. N'hésitez pas. On va
créer à Bob Iger.
Ouais, c'est bob.iger@disney.com.
Comme. Voilà, c'est facile.
Voilà, c'est très simple. Je suis certain que ça doit être ça, son adresse.
En hein. plus, ça doit être ça.
J'ai eu des contacts là, avec des gens de Disney. C'est le format d'adresse mail, est comme ça, donc potentiellement.
Bah ouais, je pense, à mon avis, c'est pas lui qui les lit, mais bon.
Non, je crois que c'est lui qui lit tous ses emails. Je serais curieux d'envoyer un mail pour essayer. Sur ton...
Invite-le au podcast, peut-être qu'il va venir.
T'imagines ? On arrive à voir Bob Iger dans un épisode du podcast. Et voilà. Ça serait beau.
On ferait un malheur. Hein.
Voilà, encore une fois, donc merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne journée, soirée ou quoi que ce soit. Et puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Salut !
Salut !
Mesdames et messieurs, nous sommes en route vers Frontierland. Dans quelques secondes, nous défilerons dans cette merveille de la nature qu'est le Grand Canyon. Prenez garde aux animaux le long de la voie. Ils ne sont pas habitués à la lueur du flash.